Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
Repenser et transformer les paysages.
Je m'appelle Samuel Bonvoisin, je suis de formation ingénieur agronome. J'ai eu la chance de grandir dans une ferme avec des parents, une famille où on se posait beaucoup de questions. Mon père se posait beaucoup de questions sur un peu l'avenir de l'agriculture. Et donc l'écologie s'est apparue à peu près en même temps. Moi, je me souviens d'avoir fait un devoir quand j'étais au lycée sur le changement climatique. À l'époque, on appelait ça le réchauffement climatique. Je suis sorti de là en me disant « Ouah, quoi, fonte des glaciers, tout va changer, quoi. » Et j'ai l'impression d'avoir aussi grandi dans cette époque-là où, en fait, on était quelques-uns à s'intéresser ou à s'inquiéter sur ces questions. Ce qui me bottait, c'était « qu'est-ce qu'on va faire, quoi ? Comment on va s'en sortir ?» Et puis, j'ai eu une vie militante pendant pas mal d'années. Jusqu'à ma rencontre avec la permaculture. Et effectivement, la permaculture, ça a été un grand moteur de changement pour moi.
Charlène Descollonges, je suis hydrologue indépendante et cofondatrice de l'Association pour une hydrologie régénérative. Je cherche à accompagner la transition écologique d'un point de vue de l'eau, donc à transmettre beaucoup de connaissances scientifiques sur l'eau. J'ai fait une fac donc, à Montpellier, l'Université de Montpellier, pour la partie hydrologie. Et ensuite, je me suis spécialisée avec une casquette d'ingénieur. J'ai fait un double diplôme, en fait, ingénieur avec l'École des Mines d'Alès pour gérer les crises et les risques d'inondation. C'était plus sur la partie inondation, mais en fait, sécheresse-inondation, c'est vraiment les deux faces de la même pièce. Quand on a des sols très secs, l'eau ne s'infiltre pas, ruisselle et provoque des inondations. Donc, en fait, j'avais une base en hydrologie qui considère le sol vraiment comme... un peu comme en agronomie, un substrat, quelque chose, un réservoir qui va juste stocker et déstocker l'eau, mais sans vraiment chercher à comprendre comment rétablir cette capacité à stocker l'eau pour éviter les sécheresses et les inondations.
Donc, je suis Simon Ricard, je suis chef de projet, designer, formateur à Permalab. On est un petit bureau d'études basé dans la Drôme à Cré. Et on accompagne des projets agricoles, des projets d'aménagement de fermes, d'espaces agricoles, de territoires, sur tout ce qui touche à l'agroforesterie, l'agroécologie et donc l'hydrologie régénérative, donc la gestion de l'eau, donc par le design, donc l'aménagement et derrière l'implantation de systèmes productifs, à la fois productifs, à la fois régénératifs, donc dans cette approche globale qui prend en compte tous les aspects du vivant et d'un système agricole et d'un système naturel aussi, quoi. Et effectivement, avec cette priorisation nécessaire de la gestion de l'eau, de ruissellement en particulier, qui est un des piliers des démarches de conception qu'on suit, quoi. Mon parcours, donc j'ai une formation d'ingénieur à l'origine, mais pas dans ce domaine ni agronomique ni quoi que ce soit. Puis c'est un peu un changement de vie et un intérêt pour tout ce qui touche à la permaculture, à l'écologie, à l'agroécologie en général, qui m'a fait changer de vie il y a 7-8 ans et qui m'a fait m'intéresser à ce qu'on appelle le keyline design, justement, une approche d'aménagement des espaces agricoles qui vient d'Australie, où on cherche à aménager en fonction du relief et des écoulements d'eau, pour que toute l'eau de pluie qui tombe sur une parcelle, elle reste dans la parcelle, elle reste dans la ferme, quoi. Et donc cette approche m'a paru géniale, tout simplement, en fait. Et donc ça m'a passionné, cette idée, cette notion de capter l'eau, d'améliorer le cycle de l'eau par l'aménagement et l'aménagement intelligent des espaces agricoles et du territoire, m'a paru à la fois comme être évidente et simple. Il y a quelque chose là qui est extrêmement pertinent, surtout de plus en plus par rapport au problème actuel.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
C'est un fait. Le changement climatique impacte fort la planète et une des conséquences visibles et palpables, ce sont des fortes périodes de sécheresse et des épisodes pluvieux moins répartis dans le temps et donc plus intenses et plus violents, parfois même dévastateurs. Résultat, des inondations, moins d'eau dans les nappes phréatiques, des sols asséchés les cultures en souffrance, parfois même, pour certaines communes, plus d'eau dans les robinets. Il existe de multiples solutions qui répondent à une logique d'adaptation dans l'urgence, ou comment trouver de l'eau ailleurs, mais il semblerait qu'au vu des changements climatiques annoncés, ces solutions ne suffisent plus. L'hydrologie régénérative propose de faire un pas de côté et de considérer le problème au-delà des logiques d'adaptation, en pensant les choses sur le long terme, en termes de régénération. Ces quatre piliers, ralentir, répartir, infiltrer et stocker l'eau. Qu'est-ce qui se cache derrière le concept d'hydrologie régénérative? Comment la favoriser et la mettre en place? Qu'est-ce que ça implique? Comment les politiques publiques s'emparent ou non du sujet? Rencontre avec Charlène Descollonges, Samuel Bonvoisin, Simon Ricard, mordu du sujet et plus que convaincu. Il et elle transmettent et expérimentent et ont créé ensemble une association à l'automne 2022 qui s'appelle « Pour une hydrologie régénérative ». L'hydrologie régénérative ou comment cultiver l'eau en transformant les paysages, un documentaire d'Héloïse Plantrou.
La définition officielle, entre guillemets, qu'on a imaginée, c'est la science de l'aménagement des espaces agricoles et des territoires pour régénérer les cycles de l'eau. Et donc, qui dit aménagement, dit effectivement conception, design, donc par non pas des ouvrages pour stocker l'eau à grands frais, mais au contraire, plein de micro-ouvrages, micro-stratégies et d'amélioration du sol et d'amélioration de plantation des arbres et tout ça. Un ensemble, encore une fois, qui va permettre d'augmenter la capacité du sol et des territoires à capter l'eau de pluie quand elle tombe, plutôt qu'elle génère du ruissellement et de l'érosion, et derrière de la sécheresse alors que des quantités d'eau sont passées. Et là, c'est plutôt se dire comment on aménage pour se dire que chaque goutte d'eau qui tombe de pluie, quand elle tombe, eh ben, elle reste sur les territoires et elle s'infiltre, elle nourrit le sol, elle nourrit les plantes, la végétation, et elle recharge les nappes phréatiques plus en profonde, et voilà.
Attention, c'est boueux. Aujourd'hui, on a la pluie qui revient sur le pays. Donc nous, dans la Drôme, c'est vraiment léger. On a eu quelques gouttes ce matin.
Samuel Bonvoisin.
Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire quand il ne pleut pas pendant 30 jours en hiver? Ben en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les pluies, en fonction de à quelle saison elles arrivent, elles ont des effets qui sont très différents. Une pluie de printemps, par exemple, elle va profiter principalement à la végétation qui pousse. Une pluie hivernale, sa fonction principale, c'est la recharge des nappes phréatiques. Et donc quand il ne pleut pas pendant 30 jours, ben les nappes ne se rechargent pas. Et en fait, on ne peut pas vraiment le rattraper. C'est-à-dire que si là, le printemps arrive et qu'on a des grosses pluies, on dira « Ah oui, bah c'est bon, on a des grosses pluies ». Mais non, en fait, le mal est fait. Les nappes ne sont pas rechargées. Les pluies de printemps ne pourront pas les recharger aussi bien que des pluies d'hiver. Et quand on va arriver cet été, bah en fait, on va subir à retardement la sécheresse hivernale, puisqu'en fait, les végétaux cet été, ils ne pourront pas puiser dans les nappes l'eau qui normalement aurait pu tomber pendant l'hiver. Ouais. C'est une situation qui est dramatique et qui permet de se dire qu'on sait déjà que sauf vraiment événements climatiques exceptionnels avec des pluies quasiment continues tout le printemps, etc., qui permettraient quand même de recharger un peu les nappes, ou alors un été très pluvieux qui ferait que du coup les végétaux seraient pas dépendants, on va dire, des nappes phréatiques pour s'alimenter. En fait, on sait déjà que cet été, ça va être la galère, quoi, et ça va être encore peut-être pire que ce qu'on a connu en 2022. C'est à la fois de la climatologie et de la météorologie, il faut toujours prendre des pincettes parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, la situation aujourd'hui, au 15 février, elle est vraiment dramatique, quoi.
Très schématiquement, le cycle d'une goutte d'eau commence dans l'atmosphère.
Charlène Descollonges.
Quand elle est contenue sous forme de vapeur d'eau dans l'atmosphère, elle précipite sous forme de pluie ou de neige sur la Terre. Et donc, quand elle est sous forme de neige, elle est stockée pendant un temps. Quand elle est sous forme de glace, elle est stockée pendant plus longtemps. Dans tous les cas, à un moment donné, elle va fondre ou elle va s'infiltrer dans les sols ou bien ruisseler dans la surface du sol pour rejoindre un cours d'eau. L'eau qui arrive dans les nappes phréatiques, elle peut rester pendant 10 ans, 20 ans, 100 ans, 1000 ans, selon la nappe. Si elle est superficielle, à un moment donné, elle peut remonter, alimenter un cours d'eau. Ce cours d'eau qui va ensuite rejoindre un plus gros cours d'eau, qui lui-même va rejoindre un plus gros cours d'eau jusqu'à arriver à son exutoire, à la mer Méditerranée si c'est le Rhône, ou la mer du Nord ou l'océan Atlantique. Donc ça, c'est le cycle de l'eau terrestre. Cette eau de pluie qui nous arrive, elle provient de l'évaporation des océans et de l'évapotranspiration des végétaux. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial, justement, dans l'hydrologie régénérative. On sait que le 2/3 des précipitations terrestres provient de l'évapotranspiration. Et donc, on a vraiment oublié le rôle du végétal dans la régulation du cycle de l'eau.
Une molécule d'eau qui arrive initialement depuis l'océan, après être tombée une première fois sur un continent, elle peut passer par 5 ou 6 cycles d'eau verte avant d'être renvoyée à l'océan, ce qui rallonge en fait ce qu'on appelle le temps de retour à l'océan. On comprend bien que pour qu'il y ait plus d'eau douce, il faut que les continents en absorbent plus et en retiennent plus. Et un des endroits où les continents retiennent le plus d'eau, bah c'est dans les cycles de l'eau verte. Alors c'est pas facile parce que quand on pense stockage, souvent on pense à des cuves, à des bassines, on pense à un volume d'eau physique qu'on a sous les yeux. Et on a du mal à percevoir qu'en fait l'eau est stockée dans des flux, elle est stockée dans des cycles. Mais l'eau verte c'est ça en fait, c'est de l'eau stockée en mouvement, dans des cycles où elle s'évapore, elle forme des nuages et elle reprécipite. Et quand on a compris ça et qu'on entend, c'est ce qu'on a entendu donc en avril 2022 par des chercheurs qui ont alerté en disant « ça y est, on a atteint donc ce qu'on appelle la 6e limite planétaire qui est la limite des cycles de l'eau douce ». Ce qu'ils nous disent, ce n'est pas les cycles de l'eau douce en général, c'est particulièrement les cycles de l'eau verte qui sont en train de disparaître.
On peut mesurer cette eau verte avec la métrique qui s'appelle l'humidité des sols. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez connu et chez nous, en France, c'est mesuré par Météo France. Et donc, elle reflète cette humidité des sols, tout l'usage qu'on fait de nos sols par rapport à l'eau. Je m'explique, une agriculture qui est très intensive va chercher à pomper toute cette eau dans les sols par plein de pratiques. Et derrière, en fait, donc ça, c'est un peu le comble du problème, vu qu'on a vraiment intensifié ce pompage de l'eau dans les sols, il n'y en a plus. On a aussi tué toute la vie, le microbiote des sols. Donc, on va chercher à irriguer artificiellement. C'est ce qu'on appelle l'eau bleue.
Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'un paysage renvoie de l'eau ou n'en renvoie pas ? Eh bien, c'est principalement les éléments paysagers qu'il compose. Donc, est-ce que ça va arriver sur des sols nus ? Est-ce que ça va arriver sur des sols qui sont couverts ? Est-ce que ça va arriver sur un bocage ? Est-ce que ça va arriver sur de la forêt ? Et en fonction de la réponse à ces questions, ben on va avoir ou pas de l'eau qui va être renvoyée dans l'atmosphère. Ce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, parce que ça a été assez étudié, c'est que les forêts, notamment la forêt amazonienne, est un formidable moteur de renvoi d'eau dans l'atmosphère et que le fait qu'elles disparaissent, ben ça provoque des sécheresses. En Europe, il y a moins d'informations, c'est plus diffus, il y a moins de chercheurs qui se sont posés ce genre de questions. Les climatologues s'en posent un peu, donc c'est intéressant d'aller voir dans leurs travaux. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des conséquences. On considère qu'un nuage, quand il se forme, il va circuler en général plutôt vers l'est, dans l'hémisphère nord, et il peut faire jusqu'à 200 km. Donc si jamais dans un territoire, par exemple, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais en France, dans le bassin parisien, on retire les arbres, potentiellement, ça peut générer un déficit hydrique en Allemagne, par exemple, ou dans l'est de la France. Donc, pour moi, il y a des effets aussi un peu géopolitiques derrière tout ça, quoi. Ben là, en fait, on pourrait recomposer notre vision du monde en se disant, ben, en fait, les pratiques agricoles ou l'aménagement du territoire, le déboisement, le fait d'avoir retiré en France 1 million de kilomètres de haies sur les 50 dernières années, bah ça a des conséquences sur la pluviométrie et ça a des conséquences aussi sur nos voisins potentiellement.
Alors, c'est lequel que t'as ?
Ouais. Simon Ricard.
Il y a une vraie culture dans le monde entier, d'évacuer l'eau, d'aménager pour évacuer l'eau. C'est malade en milieu, en ville, en milieu urbain, de tout temps, on a fait des égouts, on a fait des aménagements pour, quand il pleut, notamment, évacuer le problème que peut poser l'eau par les inondations et tout ça. Et en milieu agricole, c'est pareil, on a drainé, c'est-à-dire qu'on a fait des fossés ou des tranchées souterraines pour évacuer l'eau, les trop-pleins d'eau parfois, mais d'une manière générale, pour que l'eau qui tombe soit évacuée plutôt qu'on ait à la gérer d'une certaine manière, quoi. Sauf qu'en faisant ça, effectivement, on a mis en place aussi une manière d'assécher des territoires, parce que l'eau qui est évacuée à un moment donné, elle est manquante d'une certaine manière, à l'écosystème, au sol, plus tard, quoi. De la même manière que la mécanisation a entraîné le remembrement, c'est aussi la mécanisation qui a fait qu'on a un peu standardisé, y compris des aménagements agricoles, mais qui contribue à évacuer l'eau, quoi. Donc, ce n'était pas un problème tant que ça jusqu'à maintenant, quoique. Sauf que, en réalité, ça l'était, et ça l'est de plus en plus apparent, parce qu'il y a ces évolutions climatiques qu'on constate, quoi. Mais ce n'est pas tant les évolutions climatiques qui sont le problème, en réalité, c'est surtout que les sols sont pauvres, les sols ne sont pas infiltrants, les arbres sont manquants, les mares ont été asséchées, le ruissel, donc c'est, en réalité, c'est les aménagements et c'est l'écosystème paysager agricole de l'ensemble de bassin versant qui est lacunaire par rapport à la résilience hydrique, entre autres, et donc aux problématiques d'eau, quoi. Donc ce qui compte, c'est pas de subir le réchauffement climatique, c'est surtout de réaménager relativement rapidement pour que, quand il pleut, l'eau reste, et puis de revégétaliser, parce que c'est aussi ça, c'est par les microclimats qu'on va recréer par les arbres, par les haies, par la végétation, qu'on va solutionner le problème.
Samuel Bonvoisin m'emmène à la pépinière des alvéoles, son lieu de travail, là où sont mis en pratique des ouvrages en faveur de l'hydrologie régénérative.
On est vraiment sur les contreforts du Vercors. Donc on est sur de la terre, on dirait de la terre à pâture, quoi. Même les champs qui nous entourent, en fait, on y fait du fourrage, en fait, pour les animaux. Sur la partie basse de la parcelle ici, en fait, il n'y a quasiment pas de sol. On est directement sur la roche, quoi, sur la roche mère. Alors on est descendu dans une parcelle, et cette parcelle, c'est la première parcelle que j'avais envie de te faire découvrir, parce que à quelques détails près, elle a pratiquement pas été touchée depuis que on arrive. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à peu près l'archétype d'une parcelle laissée un peu livrée à elle-même ici sur le terrain des alvéoles. Ici, on a un double problème. On a un problème d'eau en hiver parce que on est sur un sol très argileux, un sol qu'on appelle hydromorphe, donc il garde l'eau en hiver. Le sol est gorgé d'eau, il n'y a plus d'oxygène. Et comme il n'y a plus d'oxygène, les plantes, notamment les arbres, qui ont besoin d'oxygène au niveau de leurs racines, en fait, ils meurent. C'est pour ça qu'il y a si peu d'arbres qui poussent spontanément dans cette parcelle qui pourtant est abandonnée. Et en été, ils ont le problème inverse. C'est-à-dire que comme il n'y a pas beaucoup d'épaisseur de sol, il n'y a pas beaucoup de réserve d'eau, et donc les argiles sèchent très vite. Et là, c'est la sécheresse et c'est la catastrophe, quoi. Et là, il n'y a plus rien qui pousse. Et même l'herbe, elle a du mal à rester en été. Donc, on est sur une double problématique d'eau qui, du coup, est fatale, quoi. Donc, c'est un super exemple si on veut inventer des systèmes qui permettent à la fois de gérer les problématiques d'engorgement trop d'eau et les problématiques de sécheresse estivale. Là, on est sur un terrain magnifique, quoi. En fait, je te fais visiter cette parcelle en premier, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la dernière. C'est-à-dire qu'en fait, les autres ont déjà été mises en culture, et celle-ci, pas encore. Et donc, en quelque sorte, on va remonter le temps de ce qui s'est passé aux alvéoles. Mais comme ça va me permettre, moi, de te montrer des parcelles au fur et à mesure qu'on les aménage. Et après, qu'est-ce que ça donne et comment est-ce qu'on arrive à contrer ces problématiques-là, quoi. Et donc, à régénérer ces écosystèmes. Pour moi, c'est un bon exemple, un endroit où on peut voir de façon très concrète qu'est-ce qui se passe en quelques années quand on part d'un système, on va dire, assez pauvre, avec peu de sol, etc., et qu'on veut en faire un endroit qui soit synonyme d'abondance. Tu vois, ici, le paysage est déjà différent. Simplement pour te dire qu'il y a 2 ans, cette parcelle, elle ressemblait vraiment énormément à celle qu'on vient de décrire. Donc c'était une prairie maigre. Voilà, qu'est-ce qui est différent ?
Déjà, il a été aménagé, je ne sais pas comment on peut dire, comme des petites terrasses. En tout cas, c'est un terrain qui est en pente. Du coup, il y a comme des petites terrasses, je dirais. Ouais. Et puis, je vois qu'il y a plein de trucs qui ont été plantés, des choses vraiment très diverses, puisque des plantes, des petits buissons, tout n'est pas planté droit, comme on peut l'imaginer dans des champs classiques ou conventionnels, où ça fait des vagues.
Ouais. Effectivement, il y a des sortes de paliers, en fait, un peu des terrasses. Il y a une répétition comme ça dans la pente d'un motif. Ce motif, c'est il y a une baissière, donc une baissière, c'est un fossé qui suit une courbe de niveau. Donc la courbe de niveau, c'est l'ensemble des points dans la parcelle qui sont à une même altitude. Et donc à chaque fois, il y a donc cette baissière. Juste après la baissière, il y a une petite butte. C'est là où on met toutes nos plantes. Donc. Et puis après, juste derrière la butte, il y a un plat. Et puis après, on recommence le motif.
L'hydrologie régénérative intéresse de plus en plus de personnes. Ce jour-là, Simon Ricard animait sur la ferme des terres de Baume-Rousse une formation intitulée « Hydrologie régénérative, Keyline Design ». Les participantes et participants avaient déjà suivi la partie en ligne. Elles et ils se retrouvaient pour 3 jours sur le terrain pour la mise en pratique.
Nous, on va repartir, mais on va faire
au bout, hein. Oui, ok, d'abord, j'ai trouvé le bon piqué.
Si on était sûr, on serait pas là.
Attends, enlève le machin.
Enlève quoi ?
Ça, là. Et donc, approfondir, faire des exercices de terrain, marquer des courbes de niveau, et puis travailler sur aussi que les participants puissent travailler sur leurs projets personnels qui viennent avec leurs réflexions, leurs cartes et leurs problématiques. Et puis, ça permet de faire ce qu'on appelle le design hydrologique, c'est-à-dire de réfléchir à la gestion de l'eau sur son site, et notamment autour de la gestion du ruissellement, de l'érosion, de comment capter l'eau, comment infiltrer l'eau, et comment augmenter, améliorer les bénéfices de l'eau sur son terrain, et l'eau de pluie en particulier.
Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire ? On vient de calibrer un compas égyptien qui va nous permettre de arpenter le terrain et tracer une courbe de niveau. Alors, soit elle est au même niveau, c'est-à-dire qu'on va chercher à avoir à chaque fois la même altitude à nos deux bouts du triangle, soit on va chercher à mettre une pente de 1%. Donc là, on a calibré pour qu'il y ait une différence de 1% entre nos deux pieds, donc ce qui va nous permettre de tracer une courbe à dénivelé. Voilà. Permettre de conduire l'eau doucement vers d'un point un petit peu plus haut à un point un petit peu plus bas.
Je m'appelle André Siffer et je suis biologiste à l'origine et ensuite j'ai suivi un cursus en agronomie tropicale spécialisé en agroforesterie en 90. À cette époque-là, je me suis installé comme maraîcher, donc j'ai fait 16 ans de maraîchage dont 10 dans les Hautes-Alpes et ensuite 6 ans ici dans la Drôme. On est sur la ferme Terre de Baume-Rousse. On a créé une association qui permet en fait de gérer la production agricole de ce lieu, qui est basée sur la production d'huile essentielle de lavande, quelques plantes aromatiques à sécher et aussi une activité autour des chevaux en équipe pédagogie. Et donc c'est une ferme qui est très en pente, elle est située à 400 mètres d'altitude. La ferme s'appelle Baume-Rousse parce qu'au-dessus il y a une baume qui est rousse. Et en haut, je pense qu'on est autour de 520 mètres d'altitude. Donc il y a un bon dénivelé, ce qui fait qu'il y a pas mal d'eau qui peut dévaler dans les pentes et qui tombe sur les bâtiments qui sont là en contrebas, comme tu vois. Et tout converge vers ces bâtiments-là. Donc on a une petite mare qui est en dessous, mais ce qui manque maintenant, c'est de faire un peu des ouvrages qui retiennent l'eau un peu en amont pour éviter actuellement ce qu'on observe encore actuellement. Parce que les deux baissières, elles ne protègent pas toute la pente. Donc il y a encore des écoulements très forts d'eau qui convergent vers la ferme.
Ces jours-ci, sur la ferme, vous accueillez une formation autour de l'hydrologie régénérative.
Dès 2020, on a démarré les formations avec Permalab sur l'hydrologie régénérative, parce que c'était une démarche qui m'intéressait beaucoup en complément de l'introduction d'arbres dans les parcelles, de voir comment on peut gérer l'eau à l'échelle d'un bassin, de plusieurs parcelles, pour pouvoir favoriser l'infiltration de l'eau, le stockage de l'eau, et voir aussi comment on peut éviter à certains endroits l'érosion par des grandes pluies qui peuvent entraîner le creusement de chemins. L'arbre en lui-même est déjà un moyen pour gérer, améliorer le microclimat, garder l'eau, faire circuler l'eau. Et là, c'est aussi de voir comment on peut gérer l'eau qui tombe du ciel.
Alors justement, qu'est-ce qui a été mis en place en matière d'hydrologie régénérative ici, sur la ferme Terre de Baume-Rousse.
Alors les réflexions, elles ont concerné aussi bien la mise en place de haies pour favoriser un peu la retenue d'eau dans les pentes, et aussi améliorer la biodiversité, amener des haies de biodiversité. Et dans ce système-là, on a aussi conçu la mise en place de deux baissières, des canaux qui permettent de retenir l'eau dans la pente, au lieu que l'eau soit entraînée jusqu'en bas des grandes parcelles, qu'elle soit retenue à mi-pente ou en amont et en aval, pour pouvoir s'infiltrer mieux dans les prairies. Et ces baissières, on les a conçues avec une très légère pente de 0,5%, l'une, l'autre 1%, pour pouvoir orienter l'eau vers un petit vallon, au bout duquel on pourrait ensuite mettre une petite retenue d'eau pour avoir un peu plus d'eau pour notre jardin également. Donc ces deux baissières-là ont été mises en place en 2021. On a creusé les baissières. En janvier 2022, on a planté des arbres. Donc il y a deux baissières de 150 mètres, ce qui fait 400 arbres en fait au total. Et on a choisi une diversité dans 26 espèces au total. Après, ce qu'on attend aussi de ces baissières, c'est de permettre une meilleure infiltration de l'eau dans la prairie. Donc peut-être un reverdissement qu'on verra avec le temps, juste en dessous de chacune des deux baissières. Mais ça mettra plus de temps aussi. Et les arbres, ensuite, là, on est encore sur une échelle de temps un peu plus longue, de 5 à 10 ans, pour améliorer aussi soit la biodiversité ou la pénétration des racines dans la prairie également.
Je m'appelle Edith, j'habite à Die et je suis paysagiste et je dessine des jardins pour les particuliers. Jardins à différentes échelles, des petites parcelles de 100 mètres carrés à quelques milliers de mètres carrés, un hectare peut-être. L'eau, c'est un sujet qui revient tout le temps. Les gens qui me demandent un jardin ou qui ont envie d'un jardin se posent souvent la question de comment l'arroser, comment récupérer de l'eau, comment ne pas se brancher sur le réseau pour faire pousser des plantes. Mais au-delà de ça, la question de l'eau, c'est comment le sol peut absorber l'eau et comment l'eau ne doit pas sortir des jardins, sortir des parcelles. Et du coup, la question de l'hydrologie régénérative, c'est vraiment considérer le jardin comme un espace où l'eau, elle est absorbée. Le sol devient autre chose qu'un support, devient vivant, tout simplement. Et du coup, travailler l'aménagement du jardin pour que l'eau puisse vraiment y être infiltrée en permanence. Réfléchir à quelle plantation, sur quel secteur, à quel niveau du jardin pour que ça soit le plus efficace possible. Repenser le paysage dans le sens où on plante pas simplement pour produire, mais on plante pour accompagner le jardin qu'on a en fait. Et du coup, c'est plus l'homme qui est après le terrain que le terrain après l'homme. Quand j'ai un jardin et quand je veux le planter, c'est d'abord l'exposition, la nature du sol, l'eau existante qui va déterminer où se situera chaque élément du jardin. Et du coup, réfléchir l'eau à la base du dessin de jardin. C'est pas une prise de conscience dans le sens où moi j'imagine mes jardins comme des systèmes complets. Et du coup, chaque élément a sa place. Mais c'est une sorte de colonne vertébrale qui permet de proposer des aménagements les plus pertinents.
Et dans quelle mesure c'est intéressant pour toi de faire cette formation ?
Eh bien, c'est intéressant parce que ça me montre plein d'outils. D'outils d'arpentage, d'outils techniques. Ça me fait rencontrer aussi d'autres personnes qui ont ces problématiques de l'eau sur leur terrain, sur leur parcelle, sur leur, à l'échelle de l'exploitation agricole aussi, à l'échelle d'un territoire. Et du coup, ça me donne des outils, enfin une certaine méthodologie pour pouvoir proposer à mes clients une manière de faire, une manière de penser leur jardin.
La sécheresse de cet été et ce qui s'est passé sur l'été 2022,
Simon Ricard,
a clairement accéléré la prise de conscience. Moi, je le vois tout simplement. Hein, j'ai été cette formation gestion de l'eau, hydrologie régénérative. J'ai fait trois sessions en 2021 et j'en fais 7 ou 8 là sur cette année, quoi.
C'est quoi le profil des gens qui viennent faire cette formation ?
Pas mal de soit d'agriculteurs, soit de porteurs de projets. Agriculteurs souvent à petite moyenne échelle encore, soit viticulture, soit arboriculture, soit en maraîchage parfois, même si ma formation est plus pertinente sur les moyennes et grandes surfaces. Et soit des porteurs de projets, c'est-à-dire des gens qui s'installent ou qui ont un projet d'installation et qui viennent quelque part apprendre, se former dans l'optique d'aménager leur ferme, leur système de culture de manière optimum et qui se forment par ailleurs autour de l'agroforesterie, autour des sols vivants. Enfin, c'est, tout ça, ça, encore une fois, ça va ensemble, quoi. Et puis, il y a d'autres personnes, que ce soit des techniciens, des conseillers en agroforesterie, des conseillers agricoles, voire maintenant, là, comme sur cette session, un technicien de la collectivité de l'Aglo Valence Romand, qui sont aussi sur ces mêmes réflexions.
Est-ce que tu as la sensation, justement, que les collectivités se saisissent de ce sujet-là ?
J'ai la sensation que les collectivités s'en saisissent. Là, il y a aussi, on le constate, une forme d'une accélération. Dans le sens où on a été nous-mêmes, Permalab ou notre structure que j'ai créée qui s'appelle Pour une hydrologie régénérative, pour diffuser toutes ces notions, on est contacté par, y compris des collectivités, petite moyenne échelle, quoi, des communautés de communes ou des agglos, par exemple, et qui nous disent, on aimerait avoir cette réflexion à l'échelle de notre territoire, il y a des appels à projets aussi, donc c'est des financements pour ça, et nous, on veut pousser vers la mise en œuvre, la prise en compte de ces formes d'hydrologie régénérative, ou en tout cas de gestion de l'eau, d'accompagner les agriculteurs autour de ça, d'avoir cette réflexion. C'est assez marqué, ouais.
Qu'est-ce qui est fait en termes de politique publique aujourd'hui sur notre territoire, sur le territoire de la Biovallée ? Pour moi, il y a pas mal de choses qui sont faites aujourd'hui en termes de politique publique.
Samuel Bonvoisin.
Qui, et je mets des guillemets, vont dans le bon sens. On a des politiques pour accompagner le reboisement, on a des politiques pour accompagner la plantation de haies dans les fermes, on a des politiques pour installer, essayer d'améliorer la biodiversité, etc. Donc globalement, en fait, je dirais... Voilà, la réponse c'est ça va dans le bon sens. Alors déjà, il y a des gros trous dans la raquette, de mon point de vue, c'est-à-dire qu'il y a des choses aujourd'hui qu'on ne fait pas, notamment sur la thématique de l'eau, pour moi c'est là où c'est le plus criant, c'est-à-dire que les logiques actuelles pour moi sont des logiques de fuite. On va pomper dans le Rhône, en fait on a déplacé le problème et on a dépensé des millions pour ça. C'est important les politiques d'adaptation, si on ne s'adapte pas on meurt. Mais il faudrait que ça soit vraiment juste une solution temporaire et qu'on ait une vraie politique de régénération en parallèle de ça. Et là, clairement, aujourd'hui, on n'a rien. L'horizon, c'est toujours la méga-bassine ou éventuellement des logiques de réorienter une partie de l'activité, de changer certaines productions, d'abandonner certaines cultures qui sont trop gourmandes en eau à certaines périodes, etc. Mais tout ça, c'est encore de l'adaptation. Donc pour moi, ce qui manque principalement, c'est de faire rentrer les pratiques d'hydrologie régénérative dans l'agriculture sur la vallée. C'est aussi de faire entrer les politiques d'hydrologie régénérative dans les aménagements urbains, toute la gestion, la collecte des eaux de pluie, les bords des routes, les voiries, etc. Tout ça, il faut tout repenser. Il faut que dans chaque village, on infiltre l'eau et qu'on évite de renvoyer de l'eau le long des routes départementales, etc. Donc ça, c'est vraiment très très important. Quand je dis ça va dans le bon sens et que je mets des guillemets, c'est aussi ça va pas assez vite et pas assez loin, quoi. C'est-à-dire que là, on est en train de s'engager dans un programme de plantation autour de la biodiversité. Alors, je crois que c'est uniquement sur la CCVD, mais où on va planter 14 km de haies. Et du coup, c'est super. On peut se féliciter de vouloir planter 14 km de haies. En réalité, rien que sur la CCVD, il faudrait qu'on en plante 750 km. Et si on parle de l'ensemble de la Biovallée, il faut qu'on en plante 2000. 2000 km de haies. Ça fait 4 millions d'arbres à planter. Et ça, il faut qu'on fasse ça dans les 30 ans qui viennent. Je veux dire, même dans les 10 ans, si on était vraiment ambitieux, quoi. On ne les a même pas, ces arbres. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on installe aujourd'hui, en 2023, au moins 5 pépiniéristes, même 10 pépiniéristes, pour pouvoir, ne serait-ce que, de mener à bien ce programme. On peut s'enorgueillir de dire qu'on est un territoire qui va dans le bon sens. Mais par contre, si on veut vraiment être efficace et avoir un impact, il faut revoir la copie, totalement, quoi. Il faut investir massivement dans... la régénération des écosystèmes. Donc pour moi, il y a plusieurs faux problèmes. Il y a un faux problème, c'est on n'a pas accès aux parcelles, c'est des parcelles qui appartiennent aux agriculteurs, aux propriétaires forestiers, etc. Mais en fait, ces personnes-là, elles sont trop faiblement sensibilisées au sujet. Aujourd'hui, on n'est pas assez convaincus politiquement de l'intérêt de faire ça et du coup on n'arrive pas assez à les convaincre de l'importance de s'engager dans ces programmes-là. Malheureusement, c'est dans les territoires où c'est pire que chez nous que ça se met en place. Je commençais à accompagner la communauté de communes Porte de Dromardèche où eux, ils sont sur la Valoire, la Galore, sur des rivières où ils ont des problématiques avec déjà des effets encore plus forts que chez nous. Et du coup, bah, eux, ils s'engagent et les agriculteurs sont prêts à partir. Il y avait 70 agriculteurs à la soirée d'information que j'ai faite en novembre et il y en a 45 qui se sont engagés auprès de la communauté de communes sur l'hydrologie régénérative. Donc on voit bien que c'est possible quand on s'en donne les moyens politiquement. Et puis que la situation en fait, est comprise comme étant une situation critique. On dit souvent, oui, il n'y a pas d'argent pour faire ça, mais en fait, la plupart de nos collectivités aujourd'hui investissent déjà dans plein de domaines. Et on a du mal à voir l'eau, et notamment la régénération, comme étant un domaine dans lequel il est nécessaire et urgent d'investir. Pourquoi ? Parce que si on n'a pas encore compris qu'il fallait sortir de la politique du tout tuyau, qu'il fallait réellement infiltrer l'eau là où elle tombe, qu'en fait, c'est pas grave d'investir chez des agriculteurs, par exemple. Pour moi, c'est vraiment important. C'est-à-dire que faire peser le poids de cette transformation des paysages aux agriculteurs, ça me semble pas juste non plus. Moi, je suis prêt à ce que ça soit les pouvoirs publics qui investissent, l'État, les collectivités, et que ce soit les citoyens qui se mobilisent pour aller les planter. Parce que voilà, on parle de 4 millions d'arbres, donc il va falloir quelques paires de bras pour les planter aussi, quoi.
Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas hyper optimiste. Non pas qu'il n'y a pas de solution, parce qu'en fait, les solutions, elles sont là, et si on le veut, on peut relativement rapidement les mettre en œuvre. Clairement, il suffit de le vouloir et de se retrousser les manches, on va dire, et d'avoir une vraie volonté et politique, et citoyenne, à tous les niveaux. Donc on peut le faire, hein. Je pense à des exemples en Inde où d'une année sur l'autre, ils ont littéralement réglé leurs problèmes de sécheresse et de manque d'eau sur plusieurs villages en Inde, dans des conditions plus difficiles encore que les nôtres. Et c'est en Inde, certes, mais la logique peut s'appliquer, se dupliquer partout, quoi. Par contre, il faut le vouloir, il faut organiser ça et mettre en œuvre ça, quoi. Et là, du coup, je suis moins optimiste, plutôt pessimiste, c'est en réalité sur l'inertie, d'une certaine manière, que tout ça a. Les problèmes et politiques, et d'argent, et de territoire aussi, de propriété, qui font que c'est quelque chose qui doit se gérer à grande échelle, à l'échelle de bassins versants. Parce que voilà, on aura beau faire les meilleurs aménagements sur sa ferme et tout ça, mais si tous les voisins, l'eau continue à ruisseler, à faire de l'érosion et que c'est pas planté d'arbres, ben quelque part ça va pas solutionner le problème. C'est nécessairement un problème et des solutions qui doivent être mises en place à grande échelle, collectivement, et du coup c'est plus difficile, mais d'un point de vue plus humain que vraiment pratique, quoi.
Je pense que d'une manière générale, la régénération c'est un peu l'avenir tous les pans du système, à tous les pans de la société, pas que sur l'hydrologie, hein, on peut parler d'économie régénérative, c'est quelque chose qui existe. Et il y a l'hydrologie, a aussi toute sa part, parce qu'on a vraiment profondément altéré le cycle de l'eau. Et l'hydrologie régénérative, ça peut être une réponse à ça pour régénérer les sols, réduire ces anomalies d'humidité pour avoir des sols qui soient vivants et qui stockent l'eau quand il y en a besoin.
Sur l'aspect de la régénération du cycle de l'eau et du tempérament du réchauffement climatique, eh ben on peut avoir des effets beaucoup plus rapides sur entre 0 et 20 ans si on met en place à la fois un triptyque d'aménagement pour retenir l'eau de ruissellement et retenir l'eau de pluie, de régénération des sols, par des pratiques d'agriculture de conservation, de sols vivants, tout ça, des choses qui sont largement connues par ailleurs, et d'agroforesterie, de replanter des arbres, beaucoup d'arbres, recréer des maillages forestiers, agroforestiers, parce que c'est eux les arbres qui, par l'évapotranspiration, recréent les cycles de l'eau, encore une fois, quoi. Donc c'est possible de le faire rapidement, et là il y a un vrai espoir, oui.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
Repenser et transformer les paysages. Un documentaire d'Héloïse Plantrou pour Radio Saint-Ferréol, Radio Diwa et l'association Biovallée. Merci à Charlène Descolonges, à Samuel Bonvoisin et à la pépinière des alvéoles. Merci à Simon Ricard et à la ferme des terres de Baume-Rousse, à André Siffer et à toutes les personnes qui ont accepté de répondre à mes questions. Pour aller plus loin sur le thème de l'hydrologie régénérative, rendez-vous sur le site de l'association hydrologie-régénérative.fr.